boulevard 102, c'est Marceau le matin, le point de Max. On en jase le midi et Gravel dans le retour. Sans oublier les rendez-vous incontournables.
Keep on rolling, baby!
Le pit stop avec Denis Gravel, 7h55. L'open mic d'Audrey Pinchot, 11h. Caucus avec Antonin Iacarini à midi. Boulevard 102.1, maintenant 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bon, tout le monde, on est le 16 mars 2026. Bienvenue dans le podcast de Marceau, soir. Maître Marc Bellemare, bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et toi?
On a passé une super de belle fin de semaine, mais je peux vous dire que ce matin, on regardait l'état des routes. C'était slotcheux sur un méchant temps un peu partout au Québec. Et pour ce qui est des prochaines heures, je peux vous dire que ce sera pas évident. Saguenay y a touché aussi. Demain matin, dans le secteur de Québec, on annonce du 70-80 km/h là, pour ce qui est des vents, avec de la neige au travers de ça. Mes gars espéraient que cette semaine, ça soit exactement comme la semaine passée, c'est-à-dire 2 jours d'école, 3 jours de congé dans la semaine. Je leur ai dit, il y a des chances que ce soit pas ça, mais ils vivent d'espoir.
Oui, mais tu sais, combien ça coûte aux Québécois, là, les cocos comme toi puis moi qui payons nos impôts, honnêtement, là?
Ouais.
Combien ça coûte 2 jours de tempête au Québec? Les profs qui sont payés, les 2 pieds sur le pouf, les écoles fermées, les chauffeurs d'autobus, les 2 pieds sur le pouf, les étudiants qui pitonnent à la maison, je sais pas. Oui, il n'a pas fait beau. Oui, c'est risqué. Oui, il faut faire attention. Mais on a la prévention pas mal slack, je trouve. La dernière journée, là, la semaine passée, là, il y a eu 2 jours de break. Là.
Ben,
le
3.
Premier jour, je comprends.
Ouais.
Toi?
Ben, il y a eu la journée fériée lundi au retour de la semaine de relâche, puis il y a eu 2 jours où ils n'ont pas eu d'école.
Hey, on a 180 jours d'école au Québec, il paraît, par année. On est à peu près une des sociétés occidentales les moins scolarisées en termes de fréquentation de jours d'école, on a beaucoup de décrochage, on se plaint que nos enfants ne savent pas écrire le français comme il faut, puis je sais pas, c'est vrai qu'il y a des tempêtes, c'est vrai que c'est dangereux, mais j'ai trouvé la dernière journée, en tout cas, moi j'étais au bureau les 2 fois, puis oui, on ralentit, on va moins vite, mais est-ce que ça justifiait 2 jours d'école de moins, puis est-ce que ces journées-là, on va les reprendre? Je pense pas.
Ben non, c'est inclus à même l'horaire. Il y a des jours
de... conventionné, comme disent nos syndicaux.
Il y a des jours de tempête. Il y a des jours de tempête qui sont prévus d'avance avant même que la tempête arrive. Mais Maître Bellemare, on est en 2026, là. Qu'est-ce qui empêche les enfants de se brancher sur leur téléphone ou sur leur ordinateur pour avoir accès à leur cours? T'sais, le professeur est capable d'être à table ou encore devant son bureau. Il se filme avec son cellulaire. Puis il parle à ses étudiants, puis il fait sa classe, puis il donne les travaux. Si c'est 2 heures d'école, ce sera toujours bien ça. Mais comme vous dites, on donne congé à tout le monde.
Mais toi, là, t'as-tu manqué beaucoup de temps la semaine passée pour la tempête?
Moi, je travaille à la radio le matin, Maître Bellemare, comme morning man. Je travaille le soir pour faire le podcast de mars au soir. Mais moi, mon directeur au collège me dit la seule raison de ne pas rentrer à job le matin, c'est la mort. Nous autres, je fais partie de la vieille école, moi, là.
Ben là, mais c'est ça. Mais moi aussi, j'étais là les deux journées. Puis, tu sais, dans la région de Québec, qui est une région urbaine où il y a des grattes, où il y a des scrapers, où il y a de la... Je trouve qu'on a le congé un peu facile.
Voulez-vous
c'est ça qu'on va nous dire, mais là, il ne faut pas qu'il y ait d'accident, il ne faut pas qu'il arrive de choses. Puis vous savez, il y a un monsieur en autobus il n'y a pas trop longtemps... Ça arrive sud, qui a capoté, il y a un petit gars qui est mort dans l'événement, puis vous savez, c'est important, les autobus scolaires, oui, c'est vrai, tout ça est vrai, mais en quelque part, je ne sais pas, tu sais, on nous annonce quasiment 24 heures avant que ça va être fermé pendant 2 jours, puis tout est planifié pour les fermetures, puis ça se peut-tu des fois qu'on se trompe sans météo, puis qu'il y ait une petite éclaircie qui fasse que finalement, on peut avoir des journées d'école, parce que le ministère de l'Éducation, c'est le deuxième plus gros ministère au Québec après la santé. C'est des bidous, ça, M. Marceau, là. Beaucoup de bidous pour les contribuables québécois qui se sont déplacés pareil pour gagner de l'argent, payer leurs impôts.
Mais je répète qu'en 2026, les enfants sont capables d'avoir les classes à la maison sans aucun problème sur Internet. C'est pas compliqué. Si les parents ne peuvent pas assister les enfants puis ils n'ont pas, je sais pas, les moyens nécessaires pour pouvoir assister au cours, bien, le professeur enregistre son cours. Puis quand tout ce beau monde-là revient à la maison, bien, avec le cellulaire, on est capable d'avoir accès à la classe sur YouTube. Puis là, il y a une demi-heure d'explication sur les travaux à faire. Puis l'enfant fait ses travaux le soir ou il fait ses travaux le jour, si c'est possible. Mais je pense que c'est juste de la mauvaise volonté, tout simplement. C'est qu'on ne veut pas changer les choses. Il y a des journées de tempête qui sont prévues. Puis à la fin de l'année, si les journées de tempête n'ont pas été prises, bon, on les reprend, Maître Bellemare, parce que c'était inscrit dans la convention, comme vous dites.
Oui, mais ce que tu es en train de me dire, c'est que je pense que Bernard Drinville, quand il était ministre de l'Éducation, il avait voulu reporter comme ça des congés qui avaient été donnés pour des histoires de grève ou je ne sais pas trop, puis il avait finalement conclu qu'il n'avait pas le droit de reporter des journées. Alors, ça veut dire que les deux journées, quand même, on est en mars, ces deux journées majeures, on sort d'une semaine de relâche, c'est le temps d'étudier, il ne fait pas beau dehors, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que ça. C'est des jours, tu sais, mars, c'est comme octobre, c'est des gros mois dans la scolarisation. Tu es en train de me dire que le ministre n'a pas le droit de dire, mais les deux journées qu'on a manquées, on va les reprendre quand il fera plus beau, quelque part au mois de mai, ou de laisser tomber une journée pédagogique, puis de mettre une journée d'école à la place en avisant les parents un mois d'avance. Je sais pas, moi, je trouve que les enfants, il faut qu'ils apprennent. On veut faire du grand monde avec ça, Yannick.
Maître Bellemare, vous voulez enlever les congés pédagogiques, mais qu'est-ce qui se passe, Maître Bellemare? Les professeurs, ils travaillent pendant les journées pédagogiques. Ne pensez pas que c'est le party à l'école? Là?
Je suis d'extrême droite, je vous dis. Je suis d'extrême droite. Tous ceux qui sont en désaccord avec la bonne pensée gauchisante du Québec sont d'extrême droite.
Ah oui.
Ils ont l'étiquette facile. Dès qu'on lève la main et qu'on a la moindre objection, qu'on a la moindre réserve par rapport à ce qui se passe dans nos réseaux santé et éducation, on est d'extrême droite, on ne veut pas comprendre, moi je trouve que, en quelque part, je pense que le ministre a abdiqué plusieurs de ses pouvoirs auprès des représentants syndicaux. Je pense qu'il y a là une explication, mais ce n'est pas ça qui explique la mauvaise température, tout à fait, et finalement c'est du passé, mais peut-être qu'on pourrait être un petit peu plus précis sur les annulations de cours, peut-être les faire un petit peu plus à la dernière minute, bien que les parents doivent s'organiser. Puis finalement, en fin de compte, tout le monde y trouve son compte là-dedans, surtout les enfants qui ont bien du fun parce qu'ils n'étudient pas pendant deux jours. Mais je te dis que le résultat, le final de tout ça, c'est des enfants qu'on a qui sont moins scolarisés, qui apprennent moins à écrire, à compter, à lire, à parler, à socialiser. Puis je trouve que c'est dommage parce que ça annonce à l'âge adulte, là, certaines carences qu'on déplorera éventuellement.
Maître Bellemare, comment on peut dire ça sans se faire juger? Ah, je vais dire ça de cette façon-là. Vous êtes un avocat spécialiste en dossier de SAAC, d'IVAC, de CNSST. On va se pencher sur la SAAC. Je n'en peux plus des permis internationaux qui roule sur nos routes. 6 mois avant de rencontrer un inspecteur de la Société d'assurance automobile du Québec pour savoir si le gars, il sait conduire ou pas. Je trouve ça complètement débile. Ces gens-là sont un danger pour eux-mêmes sur la route en hiver et sont un danger pour les gens autour. Ça coupe le monde. C'est sur la voie du centre. Ça donne un coup de volant. Ça prend une sortie à droite. Ça s'en va sens contraire sur l'autoroute. Ils connaissent pas c'est quoi de la glace. Ils en ont jamais vu de leur vie. Puis on les fait conduire dans ces intempéries-là. C'est complètement débile ce qu'on est en train de vivre actuellement avec les permis internationaux. Je peux pas croire qu'il n'y a pas des statistiques là, qui appuient ce que je suis en train de dire là. Il y en a qui n'ont jamais conduit en hiver. Ils arrivent ici, disent « Dans mon pays, j'avais un permis, c'est juste que là, je ne l'ai pas traîné avec moi. » On est obligé de leur faire confiance, puis on leur dit « Regardez, vous avez 6 mois pour vous pratiquer, puis vous reviendrez nous voir dans 6 mois. » Pendant ce temps-là, ces gens-là sont seuls dans leur véhicule. En fin de semaine, encore. Puis j'imagine que c'est un gars qui s'est fait dire « Hey, l'hiver, il faut que tu allumes tes lumières. » Bien, les lumières du char étaient fermées à l'extérieur, mais ouvertes à l'intérieur dans l'habitacle.
On voyait comme un aquarium bien éclairé qui se promenait.
Il était sur l'autoroute, 60 km/h, les lumières allumées dans le char. Ben non, c'est pas drôle. En fait, c'est drôle, mais en même temps, c'est triste. Là. Si ce gars-là se plante, on n'est pas plus avancé en tant que société.
Oui, mais tu sais que la société de l'assurance automobile a peur de se faire dire qu'elle est raciste.
Mais ça n'a pas rapport.
Qu'elle est anti-immigrant et que, bon, monsieur vient de l'Éthiopie. Il n'a pas de permis dans ses poches. Bon, je ne sais pas, on va lui donner... oui, il va pouvoir même travailler des fois avec un permis. Oui, on ne contrôle pas beaucoup de choses chez nous. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de véhicules. La SAC n'est pas très sévère. Ils le sont un petit peu plus par rapport aux personnes âgées. Moi, je vois dans mon bureau pas mal de monde qui défile, 80, 82, 85 ans, 89 ans, puis que là, qui ont eu un avis de la SAC, puis que là, le permis est suspendu, puis ils ne sont pas contents, puis là, c'est la santé qui l'emporte. Mais effectivement, la SAC ne demande pas beaucoup de choses, mais écoute, il y a quoi, 10-15 ans? Tu n'étais même pas obligé de suivre un cours de conduite pour avoir un permis au Québec, même pour un Québécois de souche, là. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent puis qui ne devraient pas conduire. Moi, c'est ce que je pense. Puis ils devraient exiger des nouveaux arrivants, surtout avec ce qu'on vient de dire, les tempêtes de neige. Écoute, c'est même pour nous, là, qui conduisons depuis plusieurs dizaines d'années, on roule pas vite, on fait attention, on est conscient de ça, on sait c'est quoi, mais il y a des gens qui n'ont jamais vu un brin de neige puis qui conduisent ici au Québec puis qui viennent d'un pays où il n'y a jamais neigé.
C'est ça. Je veux pas les isoler, ces gens-là. Je veux les inclure dans notre belle société, mais je veux pas qu'ils se tuent, sacrifice, puis je veux encore moins qu'ils tuent du monde, mais c'est...
Demander certifier des tests de conduite à tous les nouveaux immigrants, puis je sais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont arrivés depuis 5-6 ans. Et puis, ils conduisent. Puis, c'est ça. La SAC ne fait pas de tests. Ils font des tests dans certains cas. Ils vont être extrêmement exigeants. Puis, dans d'autres, quand ça touche les nouveaux immigrants, les nouveaux arrivants, ils ne sont pas exigeants. Ils ne sont pas assez exigeants, à mon avis. On devrait le faire parce que des gens qui viennent surtout des pays du Sud, qui viennent du Maghreb, ce n'est pas les mêmes conditions routières ici. Bien, ce n'est pas des tempêtes de sable, c'est des tempêtes de neige. Puis nos routes ne sont pas parfaites. Ouais. T'sais, il y a des trous. La configuration du réseau routier n'est pas parfaite. Ouais. Puis, il y a des courbes qui sont mal indiquées. Il y a des indications aussi qui ne sont pas très claires au niveau de la route. Alors, c'est quelque chose qui devrait être fait. Mais tu sais que la SAC, en tout cas, je ne sais pas si ça a été corrigé, je ne penserais pas, mais la SAC, encore aujourd'hui, quelqu'un qui se présente pour et qui veut être servi absolument par un homme, la SAC va tempérer. Hein.
C'est encore vrai à ce jour.
Mais ça, c'est aussi ridicule. Mais tu vois que c'est une organisation qui est là pour faire plaisir. On ne veut pas être taxé de racisme puis d'exiger des nouveaux arrivants, des choses qui n'ont pas d'allure. J'ai toujours conduit, jamais eu d'accident. Mais on ne leur demande pas assez de choses. Puis on nous dit que la sécurité routière, c'est une priorité au Québec, mais ça a l'air que ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Bien, c'est parce que je me pose une question. C'est une question purement logistique. Là. Qu'on rencontre l'individu 6 mois plus tard ou qu'on le rencontre même en même temps, tout de suite, là, c'est le même rendez-vous. C'est une fois qu'on rencontre l'individu. Donc, il arrive à la SAC, il dit « Moi, j'ai mon permis international, c'est juste que je l'ai oublié dans mon bureau chez nous sur l'autre continent. J'aimerais avoir mon permis pour pouvoir être ici au Québec. » Bien, parfait, monsieur, attendez là. Il y a un inspecteur qui va aller avec vous, il va se promener un peu sur la route. Si vous êtes capable de conduire, c'est correct, on va vous l'octroyer. C'est un rendez-vous, Maître Bellemare. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent cet individu-là. Bon, j'ai mon permis, il est dans un bureau sur un autre continent, mais j'en avais un, je vous le jure. OK, c'est beau, on vous croit sur parole. Fait que vous avez le droit de conduire chez nous pendant 6 mois. Puis 6 mois plus tard, vous allez revenir rencontrer le même gars que vous auriez dû rencontrer aujourd'hui qui va savoir si vous savez conduire. Mais pendant 6 mois-là, il y en a certains parmi eux qui n'ont jamais conduit en hiver qui sont de véritables dangers publics. Cela dit, je vais me calmer là-dessus parce que c'est le genre de choses qui me fâchent. Mais si moi, je nais en sol canadien, je vais devoir passer tous les tests possibles pour avoir droit à mon permis de conduire. Je ne vois pas pourquoi des gens qui viennent de l'extérieur pourraient avoir des passes droites, Maître Bellemare.
Tu vas toujours passer par une école de conduite.
Ben oui.
Tu vas passer des tests. Tu vas être accrédité par une école qui elle-même est accréditée. Puis ça a été pendant quoi, 10-12 ans au Québec, on a laissé faire les permis de conduire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont pas eu de cours de conduite puis qui ont eu leur permis quand même. À un moment donné, on s'est aperçu que c'était une erreur, puis on a réintroduit la nécessité des cours de conduite, ce qui est une nécessité, à mon avis. Tu sais, tu conduis un véhicule qui pèse 2 tonnes, là, des fois 3, là. C'est des gros véhicules. C'est pesant, c'est gros, tu peux tuer avec ça, tu peux te faire mal aussi, tu peux briser des choses et tu suis un cours de conduite. Alors, les nouveaux arrivants devraient tous être obligés de le faire. Mais dans certains cas, ils vont dire, ça me prend un permis parce que j'ai une job, parce que je pourrais livrer de la pizza, parce que je pourrais faire livrer des médicaments, je pourrais travailler pour un commerce quelconque.
Parfait, Maître Bellemare, mais pour moi, à 16 ans, j'en voulais une job, je voulais mon char, il fallait que je fasse mon permis pareil.
C'est ça. C'est pas parce que t'as un job que nécessairement t'es un bon conducteur. Il y a quand même des choses à faire. Puis conduire, c'est un privilège, c'est pas un droit.
Exact. Je suis entièrement
d'accord. C'est à peu près la seule chose qu'il n'y a pas dans la Charte des droits et libertés.
Oui, c'est ça. Exact. Autre chose que j'ai vu passer tantôt, c'est sur TVA Gatineau, Ottawa, qu'on peut lire ça. Une pétition qui a été déposée à la Chambre des communes par un Gatinois. Et lui demande l'adoption d'une législation concernant les phares de véhicules éblouissants. Je vais vous avouer, Maître Bellemare, que dans les dernières années, avec les nouvelles technologies qui rentrent, effectivement, quand on est sur l'autoroute puis on croise un autre véhicule sens contraire de l'autre côté, bien entendu, quand la personne est sur ses hautes là, puis a oublié ses lumières, ça réfléchit très fort aussi. Quand vous êtes sur un boulevard où il y a une courbe, puis là, à un moment donné, les lumières arrivent dans votre visage, des fois, on a l'impression qu'on ne voit même plus ce qui est en face de nous autres pendant 2-3 secondes. Ça peut être dangereux. Votre avis là-dessus? Est-ce que le gouvernement devrait se pencher là-dessus sur les phares qui éblouissent beaucoup trop, les fameux LED, là?
Peut-être que oui. J'imagine que dans le code de la sécurité routière, il y a des dispositions là-dedans, mais qui ne sont peut-être pas spécifiques. Ils sont plus de la nature de ne pas nuire à autrui ou ne pas obstruer la vue ou ne pas nuire d'une quelconque façon à la conduite automobile. Mais oui, c'est vrai, il y a des phares qui sont éblouissants, effectivement. Et comme, par exemple, tu n'as pas le droit d'avoir des vitres teintées qui font en sorte que les policiers ne peuvent pas t'intercepter, tu n'as pas le droit d'avoir une plaque qui est invisible, dont les chiffres et les lettres sont invisibles sur ta plaque sur ton véhicule. Il faut toujours qu'elle soit visible pour que les policiers puissent éventuellement t'intercepter et t'identifier. On pourrait le faire pour les phares. Même quelqu'un qui te suit en auto, c'est pas nécessairement quelqu'un qui vient à ta rencontre, c'est quelqu'un qui te suit en arrière. Là. C'est gossant d'avoir quelqu'un qui a les gros phares en arrière de toi. Là. Dans le miroir, tout ça, ça dérange. Et même sur l'autoroute, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont sur l'autoroute et qu'il y a quand même un terre-plein entre les deux voies, que c'est pas grave d'être sur les hautes. Mais ça dérange aussi parce que quand Claude prend sa courbe, des fois, il peut mettre les spots dans ma face. Alors oui, ben pourquoi pas? Alors, mais là, on va y dire, ouais, mais là, y a-t-il eu des accidents? Puis ça vaut-tu vraiment la peine de changer toute la réglementation pour ça?
Ben, en fait, on pourrait donner des clauses grand-père aux véhicules qui ont déjà été fabriqués avec ces phares-là, là, mais pour le reste, on pourrait peut-être mettre ça à une intensité qui plairait à la moyenne des ours. Je me suis posé la question moi-même, Maître Bellemare, je me suis dit, c'est-tu parce que je vieillis que je commence à être intolérant à la lumière la nuit? Puis finalement, en lisant cet article-là, ça me rassure, je suis encore un peu jeune. C'est juste qu'il y a des phares qui sont peut-être un peu trop forts.
Oui, puis tu sais, il faut comprendre que jusqu'à il y a quelques jours, on était... Le fuseau horaire faisait en sorte que 4 heures, c'était 3 heures, 4 heures moins quart, 3 heures et demie dans certaines journées, 4 heures, c'est déjà sombre. Alors, les phares sont opérationnels pendant une période appréciable de la journée.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Maître Bellemare, aujourd'hui? On est le 16 mars 2026. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette date-là, le dépasser le 15 mars? Qu'est-ce qui arrive le 15 mars, Maître Bellemare, le lendemain du 15 mars? Qu'est-ce qui se passe?
Bonne question, je ne sais pas, là, tu m'as là.
Je peux me promener en moto aujourd'hui, Maître Bellemare. Je peux me promener en pneu d'été aujourd'hui, Maître Bellemare.
Ah, c'est vrai, t'as bien raison. Moi, j'ai pris mon rendez-vous pour le 1er mai.
Ah oui, ben oui.
Mais des fois, je me dis, est-ce que je devrais, parce que j'ai quelques causes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc je traverse le parc. Et j'ai déjà eu de la neige au mois de mai, j'en ai déjà eu au mois de septembre, quasiment fin août, dans le parc des Laurentides, où il y a souvent 4 saisons, hein, printemps, été, automne, hiver, dans le parc, là, c'est... Tu rentres là-dedans, là, tu vas faire le tour du monde.
Mais mois de mai, c'est judicieux. Le 1er mai, c'est judicieux. Mais je trouve que quelqu'un qui roule aujourd'hui en moto ou encore en pneu d'été, alors que c'est légal aujourd'hui de rouler en pneu d'été, c'est un peu irresponsable. Je me demande si le gouvernement ne serait pas mieux de retrousser ça peut-être de 2 semaines plus tard.
Non, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Les périodes pour les pneus d'hiver, là, tu sais, même au début, je pense que c'est le 15 décembre, ça se peut-tu?
Oui, mais avant ça, ouais, c'est ça. Maintenant, c'est rendu le 1er décembre. Avant, c'était le 15.
Alors, tu sais, écoute, on a eu de la neige en masse au mois de novembre. Avec les changements climatiques, il a tombé beaucoup de neige au mois de novembre. On risque d'en avoir encore en avril. Puis là, le gouvernement du Québec, qui dit se soucier de la sécurité routière, qui fait de la grosse publicité à TV pour dire « Faites donc attention à tes amis quand vous vous promenez en auto », tolère que des gens se promènent avec des pneus à fesses d'été. Parce que, d'après moi, des pneus d'été en hiver, dans les tempêtes, c'est comme des pneus à fesses. Là. C'est pas plus adhérent que ça. Et ça n'est qu'une tête. Je te jure, là, à la Société de l'assurance automobile, là, c'est vraiment le prix citron. Là. Avec sa clique, ça n'a pas aidé. Mais de façon générale, j'ai l'impression que ces gens-là, au niveau de la conduite, de la sécurité routière, ne font pas attention. On en a parlé tantôt par rapport aux nouveaux arrivants, là, mais là, il y a de la neige ici. On a eu 2 jours là, de tempête la semaine passée, les écoles fermées, puis même pas une semaine plus tard, on permet que des gens se promènent en pneus d'été. Mais c'est qui prend ces décisions-là? C'est le ministre des Transports, là, actuellement. Là, il peut-tu grouiller? C'est Jonathan Julien, je pense, encore. Là.
Ouais.
Il peut-tu, comme testament politique, rapprocher d'un mois les pneus, tu sais, 1er novembre, puis terminer ça le 15 avril, ça serait déjà... Parce qu'il me semble qu'on a parlé la semaine passée du verglas là, qui tombait, puis c'est pour ça qu'ils ont fermé 2 écoles. Il paraît qu'il allait y avoir du verglas 3 pouces d'épais. On parlait d'une tempête la dernière fois qu'on avait du verglas abondamment comme ça. C'est parce que c'était pas en avril 23.
C'est possible.
On référait à avril 23 en disant qu'il y avait eu beaucoup de verglas, puis que l'Hydro-Québec était débordé, puis tout le monde était privé de courant, puis tout ça. Mais là, c'est quoi? Ça veut dire que s'il y a eu une tempête de verglas il y a 3 ans, on n'a pas appris de ça. On permet aux gens de circuler en pneus d'été un mois avant le verglas de 2023. On n'est pas nombreux au Québec, là, mais des fois, je ne sais pas, je suis un peu gêné.
Bref, pour tous ceux qui nous entendent, des pneus d'été, ce temps-ci, c'est un peu irresponsable, même si vous avez le droit. Je vous réfère à un autre article, celui-ci du Journal de Montréal, Journal de Québec. Le chauffeur d'autobus dont on a tant entendu parler, qui a tué 2 enfants en fonçant dans une garderie de Laval, vient d'obtenir l'étiquette qui est d'accusé à haut risque, ce qui complexifierait ses chances un jour de quitter l'institut psychiatrique où il est enfermé. En fait, il va devoir passer par le même processus que toutes les autres. Par contre, on va être 2 fois plus prudent avant de le faire sortir. Pierre-Ny Saint-Amand était aujourd'hui au palais de justice de Laval pour entendre le juge parler de sa cause. Et ce qu'on lui a dit, c'est qu'il allait être en dedans pour un bon bout, jusqu'à temps qu'il puisse peut-être un jour guérir et revoir la lumière du jour. Il est à l'Institut Pinel présentement. Et l'homme avait embouti la garderie éducative de Sainte-Rose en février 2023. Il avait tué 2 enfants, il en avait blessé 6. Et on nous dit que l'individu est susceptible d'avoir encore des passes comme il a eu la dernière fois où il a tué ces 2 enfants-là, c'est-à-dire des psychoses. On lui a donné cette étiquette-là. Ça va faire en sorte qu'il ne pourra pas sortir aussi facilement que les autres malades qui sont à l'Institut Pinel présentement.
J'aimerais bien ça, avoir un petit oiseau pour deviner l'avenir, Yannick. Mais moi, ce que j'ai vu dans des cas de non-responsabilité criminelle, OK? C'est le tribunal administratif du Québec dans la section troubles mentaux qui, au Québec, gère tout ça. Alors, c'est des gens qui sont inhabiles à subir leur procès, qui sont inaptes à subir leur procès. C'est des gens qui sont acquittés pour non-responsabilité criminelle. C'est un peu le cas de M. Saint-Amand, si je me souviens bien. Lui, il a été considéré comme étant non criminellement responsable parce qu'il était en pleine psychose au moment où il est rentré dans la garderie qui a tué 2 enfants, je pense, blessé quelques autres, à Laval, il y a plusieurs années. Moi, mon expérience de ce genre de cas-là, c'est que les malades, les gens qui sont non criminellement responsables, s'en vont dans un institut psychiatrique comme Pinel, avec sécurité. À un moment donné, ils font des demandes pour être libérés. Puis là, il y a un psychiatre qui vient pour dire qu'ils ont trouvé une bonne molécule, là, puis qu'ils ont trouvé la petite pilule miracle là, qui va faire qu'ils vont être bien, puis qu'il n'y aura plus de troubles mentaux, puis que le risque est faible, puis etc. Je serais bien curieux de savoir quand est-ce qu'il va sortir, mais je ne pense pas que ça va prendre bien des années. S'il y a un bon comportement à l'intérieur des murs, il va sortir assez rapidement. Moi, j'ai vu des gens qui sont sortis un an, même pas un an, 15 mois après, puis ont tué un voisin, il était en pleine psychose, à coups de couteau, poignardés, des assassins, mais ils ont été considérés non criminellement responsables, puis ça a été assez facile pour eux autres de sortir, puis des gens qui étaient à Pinel.
Il n'y en avait pas un au nord de Québec qui a eu une psychose, puis il a tué son voisin, puis c'est son père qui est arrivé sur le fait, puis son père est obligé de rentrer dans son fils en char pour le séparer du gars qui est en train d'essayer de tuer.
Oui, c'est au Lac-Saint-Charles, ça.
Lac-Saint-Charles.
Sur Lac-Saint-Charles, c'est Jacques Côté, le monsieur qui a été tué.
Exact.
Et alors c'est, je te dirais pas que c'est facile, mais c'est un peu déconcertant. Moi, j'ai représenté une famille, c'était la famille Malot, qui était à contre-cœur, dont le père avait été assassiné par un voisin mécontent. On s'est présenté au tribunal administratif du Québec, qui tient ses audiences à l'intérieur des murs à Pinel. Et on n'a même pas été capable d'intervenir pour poser des questions au monsieur qui voulait sortir avec son psychiatre et son avocat. Lui, il avait son avocat, il avait son psychiatre, mais la famille n'a pas le droit d'être représentée. Alors, la famille n'est pas partie à cette décision-là. Fait que le gars, il a son avocat, son psychiatre, puis tout le monde est d'accord, puis le gars, il est sorti. Il est sorti à peine 15 mois après l'assassinat. C'est assez révoltant, merci, pour la famille. Je comprends que c'est des malades. Je comprends qu'on ne les considère pas comme des meurtriers, on les considère comme des malades. Puis là, on essaie de voir si on doit les garder à l'intérieur sur le même principe que n'importe quel autre malade. Mais je serais bien curieux. Je pense pas que M. Saint-Amand va faire bien longtemps à l'intérieur des murs. Je penserais pas. Ça m'a l'air d'être un gars assez calme. Il y a un article d'Isabelle Haché, il n'y a pas tellement longtemps, qui avait fait un peu son pedigree. C'est un homme d'origine cambodgienne qui est arrivé ici. Et puis, on ne pouvait pas soupçonner qu'il y avait des problèmes de cette nature-là. Il a eu son permis, il a chauffé des autobus publics. Mais je pense qu'on va le revoir, peut-être pas chauffer des autobus, là, mais je pense qu'on va le revoir en liberté d'ici 2-3 ans maximum. Ça m'étonnerait qu'il fasse plus que ça. Mon expérience, c'est ça, par rapport aux gens qui sont non criminellement responsables, qui s'en vont en Pinel, là, c'est assez rare qu'ils vont y garder 15 ans. Je me demande s'il y a déjà eu des cas où ça a été le cas.
Ah, puis là, on disait que la raison pour laquelle il fait des psychoses, c'est peut-être en raison des traumatismes psychologiques passés. On dit qu'il a survécu au régime quand il était jeune des Khmers rouges au Cambodge et ça semble avoir dépassé ses capacités de régulation. Il y a un autre dossier comme ça qui est apparu la semaine passée, si je ne me trompe pas, c'est dans la presse. Vous devez certainement l'avoir vu passer. Il y a un gars qui a été condamné à vie pour le meurtre de sa conjointe. Lui va pouvoir demander sa libération plus tôt après l'examen de son vécu en tant qu'homme noir. Donc, c'est un Canadien qui a été reconnu coupable d'avoir poignardé sa conjointe à mort dans un centre commercial de la Colombie-Britannique qui va pouvoir demander la libération conditionnelle plus tôt qu'un homme blanc parce que le juge a pris en compte son parcours et son expérience en tant qu'homme noir. Il a poignardé sa femme à 15 reprises dans une cage d'escalier du centre commercial. Elle est malheureusement décédée de tout ça. Et la couronne demandait à ce que M. Downey ne puisse pas demander sa libération conditionnelle avant 15 ans. Mais la juge en chef adjointe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, Heather Holmes, a plutôt fixé cette période de 12 ans après avoir examiné l'évaluation de l'impact de la race et de la culture.
Oui, c'est n'importe quoi. Il y a toutes sortes de critères. On trouve toujours des façons de laisser sortir les gens prématurément, les libérations conditionnelles, il y a toujours une bonne raison. C'est un bon gars, c'est une erreur de parcours, c'est un risque acceptable pour la société, ceci, c'est ça, je te l'ai dit. Les libérations conditionnelles, s'il y a quelque chose qui nuit, à mon avis, à l'image de la justice et qui fait que notre système de justice criminelle est remis en question par beaucoup de gens, c'est ça, c'est les libérations conditionnelles. On laisse sortir les gens avant terme. Il y a toujours une bonne raison. Puis là, on introduit des éléments raciaux là-dedans, autochtones, racisés, etc. Puis là, on va faire preuve de clémence par rapport à ça. Moi, je n'accepte pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça.
Mais je trouve tellement que c'est une décision conne. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, j'ajoute que c'est une décision qui est conne. La juge dit, comme je l'ai indiqué, M. Darnay possède un casier judiciaire quand même assez important qui implique de la violence et des armes à feu. Je reconnais toutefois que l'effet aggravant de ce casier est en partie contrebalancé par les circonstances atténuantes de son parcours. Donc, on a considéré que son enfance en tant qu'homme noir en Colombie-Britannique, ben, c'était un facteur atténuant.
Oui, et on a pas de démonstration très, très savante et très rigoureuse du lien entre le parcours de l'individu et ses difficultés qu'il a pu vivre en lien avec la couleur de sa peau et le crime commis.
Mais c'est quoi le pourcentage des Noirs qui étaient pauvres au départ, qui ont été peut-être ostracisés à certains endroits, qui finissent par tuer des gens?
Point 0,1%. C'est subjectif. On dit autochtone, racisé, un individu de race noire, alors là, ça vient expliquer tous les facteurs, mais où est la preuve? Où est la preuve du lien entre les deux? Si quelqu'un de race noire est attaqué, ou quelqu'un est attaqué pour sa religion, parce qu'il porte un signe religieux, puis il est attaqué, puis on peut parler d'un crime haineux. Quelqu'un était attaqué à cause de sa religion, à cause de la couleur de sa peau, puis qu'il y a une relation entre les deux, puis que la personne réagit de façon disproportionnée parce qu'elle est visée dans son intégrité religieuse ou son intégrité physique ou mentale ou ses origines ethniques. À ce moment-là, il peut y avoir une explication. On peut parler d'une circonstance atténuante, mais là, du simple fait qu'elle appartient à un groupe et que c'est à cause de la couleur de sa peau, de sa religion ou de ses origines autochtones, on va dès lors considérer que, ah oui, c'est vrai, donc, mais est où l'explication? Non, mais il y a des Blancs qui ont été maltraités dans leur jeunesse, qui ont des traumatismes majeurs et qui ne bénéficieront pas de cette clémence-là pour chez qui ça ne sera pas considéré comme une circonstances atténuantes. Fait que c'est une justice à deux vitesses, tout le temps de plus en plus complaisante, où on banalise le crime. Puis les victimes, allô les victimes? Les victimes sont où? Nulle part. On ne les considère pas, on ne les écoute pas, ils ne sont pas représentés, ils ne sont pas partis à ces procès-là, ils ne sont pas partis à ces discussions-là. Puis en magazine, mets ça dans ta pipe, victime.
Mais j'ai toujours pensé que...
Tu vois aller le gars là, qui va s'en tirer avec des peines... amoindri considérablement, mais les victimes n'ont aucun statut et on ne les considère pas.
J'ai toujours pensé, Maître Bellemare, que la justice, là, la fameuse justice là, avec la balance là, qui est à peu près égale, ça devait être égal pour tout le monde. J'ose présumer que la victime dans ce dossier-là avait une famille et que sa famille, en voyant ça, que le meurtrier de leur fille obtient 3 années de moins que quelqu'un qui aurait fait le même crime parce qu'il y a eu une enfance difficile, ils n'ont pas l'impression que justice a été rendue.
Oui, parce qu'il y a une enfance difficile, mais aussi et surtout, comme je te dis, j'ai pas tous les détails de cette affaire-là, mais du simple fait qu'il appartient à un groupe racisé, donc qu'il est de sa couleur de peau, ses origines... il appartient à une nation autochtone, peu importe. Alors, du simple fait qu'il appartient, on ne fera pas un très, très long débat pour expliquer quelle est la nature du traumatisme qu'il a vécu dans sa jeunesse, puis tout ça, parce que ça, on peut le faire dans n'importe quel cas, là. Les accusés peuvent, dans tous les cas, essayer d'amener des circonstances qui peuvent expliquer le crime en disant, mais moi, j'ai été maltraité, puis j'ai vu rouge, puis j'ai réagi de façon disproportionnée. Ça, n'importe quelle personne peut le faire, peu importe la couleur de sa peau. Mais dans ce cas-ci, on va inférer du simple fait qu'il appartient à cette communauté-là qu'il y a une explication au crime qui a été commis. Alors, c'est inacceptable, mais c'est ce que les lois permettent de faire. Et on a eu, entre 2015 et 2025, on a eu un gouvernement Trudeau à Ottawa qui a passé beaucoup de lois, qui a modifié le code criminel, qui a aboli plusieurs peines minimales, avec David Lametti, qui était ministre de la Justice, qui a fait un beau gros ménage là-dedans, qui a présenté le projet de loi C-5 pour permettre des peines dans la communauté, incluant dans les cas de crimes sexuels. Alors, il a ouvert les portes et ouvert les portes des peines dans la communauté, facilité les libérations conditionnelles et tout ça, eh bien, écoutez, moi, je suis contre ça mur à mur. Là. Je pense qu'on est mûr pour une réévaluation globale de notre système de justice criminelle pour sévir davantage, faire en sorte qu'un crime, ce soit un crime, parce que je l'ai toujours dit, moi qui rencontre les victimes dans mon bureau, démolies par ce genre de décision-là, le premier pas vers une réadaptation sociale, Yannick, là, le premier pas vers un semblant de guérison pour une victime, là, c'est une peine juste. Tu ne peux pas demander à ces gens-là là, qui voient l'agresseur qui a tué leur fille, qui bénéficie d'un break de 3 ans par rapport à un homme blanc, dans les mêmes circonstances, tu ne peux pas demander à cette famille-là d'être contente et satisfaite du verdict. Ces gens-là sont traumatisés. À vie, ils vont passer le reste de leur vie à se dire, avec raison, qu'il n'y a pas de justice. Et on a l'impression que ça, ça n'a pas d'importance. Ça ne pèse pas lourd en balance, les victimes d'actes criminels. On a beau jaser, on a beau dire, on a des beaux discours, on a des chartes, mais quand vient le temps de condamner, on est un peu peureux.
Maître Bellemare, je ne sais pas si vous avez vu ça en fin de semaine. C'est des images qui ont circulé énormément sur les réseaux sociaux. Un père de famille qui assiste à la game d'hockey de son fils. Et ce qu'on voit, c'est que son fils, ce qu'on sait du moins, c'est que son fils a eu une mauvaise pénalité qui a été décernée par un arbitre. Le père de famille a attendu la fin du match et a ensuite suivi l'arbitre lorsqu'il est sorti de la glace pour s'en prendre à lui par derrière. Je suis en train de vous le montrer présentement à l'écran. Là. C'est vraiment pas beau à voir, Maître Bellemare.
Assez hypocritement, merci, parce que pousser quelqu'un violemment comme il l'a fait sur les images... Il faut être un peu chicken.
Ben, les gars sont en patin.
Les gars sont en patin. Ils rentrent calmement après leur match. Ouais. Ils ont ramassé quoi? Des peanuts pour aller faire ce job-là. Là. Ils ne sont pas payés, ces gens-là. Là. C'est ridicule, là, ouais. les rémunérations, quand il y en a. Là. Et ils, par en arrière, en plus, là, il n'a même pas eu l'opportunité de se défendre.
On parle d'un homme de 38 ans. On n'a pas encore son identité. Peut-être que son identité sortira. Mais qu'est-ce qui pousse un parent comme ça à s'en prendre aux arbitres en 2026? Ce gars-là va se ramasser, et avec raison, avec un dossier criminel. Juste vous dire que l'arbitre a été blessé. On dit qu'il est blessé au bras et à l'épaule. Il serait à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. Ça, c'est la bonne nouvelle, là. Mais qu'est-ce qui pousse un parent à péter les plombs comme ça pour 2 minutes de pénalité, Maître Bellemare? Comment ça peut être explicable, ça, par la raison? Là?
Ben, toi, tu fais du hockey aussi avec tes enfants. Moi, j'ai fait 25 ans de hockey mineur. J'ai 4 enfants sur 5 qui ont fait du hockey dans leur jeunesse. J'ai vu des scènes disgracieuses. J'ai vu des parents peut-être pas perdre le contrôle. Là. Moi, j'étais dans le secteur Sillery-Sainte-Foy, les gouverneurs. Mais des fois, on allait dans certaines régions que je ne mentionnerai pas de la ville de Québec, on savait qu'on allait ramasser une coupe de bleu. Tu sais. On savait que dans telle région, il y avait plus de violence, les joueurs jouaient un petit peu plus serrés, il y avait des coups de bâton qui se donnaient, puis il y avait des parents un peu plus hystériques dans les estrades. Mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, là, qu'un arbitre se fait amocher là, ou qu'un autre joueur se fait amocher. Là. Ou qu'un parent se fait amocher, ou qu'un parent amoche même un joueur de l'autre équipe. Là. Il y en a des histoires comme ça au Québec, mais moi, je suis bien écœuré de ça. Et je vais te dire, là, on appelait ça notre sport national. On était fiers du Québec, on était fiers de notre sport. On envoyait des joueurs dans la Ligue nationale, on était forts, on était bons. Les gens jouaient au hockey, mais je te jure, là, ça a de l'impact chez les parents. Là. Il y a des parents qui regardent ça, là, puis qui disent, moi, mon fils... « Ma fille, ils n'iront pas jouer au hockey. » Parce qu'ils prennent pour acquis que les parents dans les stades de hockey, dans les arénas au Québec, sont complètement cinglés.
Mais ça, c'est notre sport national. C'est notre sport national, puis je comprends qu'il y a du débordement. Mais si vous regardez des matchs de soccer en Argentine, là, il y a des arbitres qui se font courir par la foule au grand complet. Je veux dire, dans tous les sports, il y a des maillons faibles de la société. Là. La raison pour laquelle on voit souvent ça au hockey, c'est qu'il y a énormément de jeunes joueurs puis d'adultes qui jouent au hockey. Donc, nécessairement, les incidents, on va les voir plus juste au hockey, mais il y en a dans le soccer, il y en a au deck hockey, il y en a au football. Au football, c'est rare que ça se bat sur le terrain en raison du fait qu'ils ont tous des casques sur la tête puis les suspensions sont très sévères.
Il y a une culture aussi au football, curieusement, qui ne tolère pas la violence.
Mais dans la foule, Maître Bellemare, dans les stades, ça se tapoche sur la gueule, là, des stades de football. Si la personne commence à être un peu baveuse puis elle a le gilet de l'autre équipe, là, ça se tapoche l'un sur l'autre. Je l'ai vu de mes UV en Nouvelle-Orléans. Là.
Ouais. Mais notre sport, le hockey, là, c'est que les Québécois, ils ont ça d'un trip. On a tous joué au hockey avec au coin de la rue avec un hockey tout croche, puis des patins tout croche, puis courir après une rondelle, puis il fait froid au Québec, puis on a des patinoires extérieures, puis c'est le fun, puis c'est parfait, puis ça demeure le hockey, à mon avis, le plus beau sport qui existe. Surtout quand les conditions climatiques permettent de le pratiquer. Mais ça fait mal, ces images-là, Yannick, je te le jure. Là. Et il y a beaucoup de pères et de mères qui ont des jeunes enfants qui seraient peut-être portés à les inscrire au hockey, qui regardent ça et qui se disent « Ouais, pas sûr que ça me tente autant. » Moi, mes enfants ont fait du hockey, ils ont fait du soccer, ils ont fait du football. Mais c'est drôle, peut-être, tu vas dire, c'est mon expérience personnelle. Mais j'ai vu plus de parents crinqués dans les arénas que dans les matchs de football puis de soccer. J'ai vu plus de monde crinqué au hockey. Je ne sais pas si c'est parce que c'est dans notre fibre. Puis quand nos enfants, on les voit tous dans la Ligue nationale, mais peut-être c'est l'hiver aussi, les déplacements, la fatigue des parents, je ne sais pas. L'investissement financier aussi, parce que ça coûte cher envoyer un jeune dans les arénas. C'est pas évident au hockey, les équiper pour le hockey actuellement, surtout les gardiens de but. Mais je pense qu'il y a plus de problèmes de comportement dans les arénas qu'il y en a dans d'autres sports, même des sports d'équipe. Peut-être qu'il y a des parents impatients des matchs de football, mais le hockey, là, c'est un cas, là. Puis c'est pour ça qu'il y a autant d'infractions puis de comportements déréglés. Puis là, on voit, là, ça a été filmé. On a d'excellentes images. On a un parent qui arrive hypocritement pour attaquer un arbitre qui fait son possible, qui arbitrait, je pense, un match de junior B. T'es pas dans le junior majeur, là. Alors...
C'est junior D, Maître Bellemare. C'est pas junior B, c'est junior D.
Ça existe, ça?
Ben, je savais même pas que ça existait. Là. On me dit que c'était comme un rassemblement de lettres là, qu'on met là-dedans pour être sûr de plaire...
qui ne rentre pas dans le C puis dans le B, finalement.
Ouais, non, mais c'est pas plus... Il y a une grosse explication qu'on m'a dit ce matin, puis honnêtement, je ne l'ai pas retenu, mais c'est du junior 2, mais ça ne veut pas dire que c'est les plus poches là, de la société. Là.
Non, je comprends, puis bravo, c'est jouer au hockey, puis on peut s'empêcher d'un jeune de jouer au hockey, c'est un sport magnifique, puis c'est bon, cardio, tout ça, mais... Je pense qu'on a un problème dans nos arénas. Puis j'écoutais hier la ministre sur, je pense, la TVA, la ministre Charest, le ministre responsable du sport, qui disait « assez mal préparé, merci. Je pense que les gens vont voir ça, puis je pense qu'on n'aura plus ce genre de comportement-là. Je pense que c'est le contraire. » Ça dépend quelle peine on va donner à ce gars-là, parce que j'imagine que les médias qui ont suivi ça beaucoup hier, le dimanche, aujourd'hui, ils vont suivre l'affaire parce que j'imagine qu'il va y avoir éventuellement des accusations, si ce n'est pas déjà le cas. Puis on verra bien quel genre de peine on va donner, mais ça va être quoi? Ça va être une tape sur les doigts? Ça va être une amende? Ça va être
il n'a pas commis un meurtre. Là. Ça va être le maximum qu'on peut donner pour un voie de fait ou pour un voie de fait grave. Là, je ne sais pas comment...
Ça va être voie de fait grave, ça va être voie de fait simple.
Oui, c'est ça, exact.
Ça va être voie de fait avec lésion. Ça va être une tape sur les doigts, ça va être une amende. Ça va être quoi? Ça va-tu être véritablement... je sais pas, moi...
Moi, je pense au boys qui a vu son père faire ça. Là. Je pense au gars qui a vu ça. Son père descendre et s'en prendre à l'arbitre. Là. Ça ne doit pas être une grande fierté, je peux vous le dire.
Non, je comprends, mais il y a des gens chez qui ça peut avoir aussi... bon, écoute, j'en ai pas entendu qui ont dit ça, là. Mais il y a toujours des cocos qui vont dire « Ouais, maudit arbitre de marde, la dernière game que j'ai faite, il méritait bien plus que ça. » Puis on n'en trouve plus d'arbitres.
Ah, c'est le combat!
Les gens ne veulent plus arbitrer. Là. C'est pas payant. Puis tu te fais crier après. Puis,
mais chez nous,
c'est plus difficile qu'autrefois d'avoir des arbitres. Là.
Chez nous, c'est le combat d'une vie. Là. J'essaie de dire à mes gars que les arbitres font partie du jeu. Des fois, il y en a des bons. Des fois, il y en a qui en a des moins bons. Ces arbitres-là, ils ont une vision du jeu que toi, tu n'as peut-être pas nécessairement, mais il faut juste accepter leur décision. Puis oui, il y en a des bons arbitres. Puis oui, il y en a des mauvais, mais ça fait partie du jeu. Les joueurs sont pas parfaits. parfaits, les coachs sont pas parfaits. Attendez-nous pas, attendons pas à ce que tous les arbitres qui sont sur le jeu soient parfaits. Mais je vous le dis, là, ces discussions-là avec mon gars, mon plus vieux, entre autres, là, qui a une équipe qui brasse assez, là, toutes les fois qu'on revient dans le char, il me parle des arbitres, puis à chaque fois, je dis, tu dois faire... C'est ça, la vie. Des fois, tu vas avoir un boss là, qui va te condamner alors qu'il n'y a pas raison de te condamner. Tu as le choix de partir ou tu as le choix de rester, mais il a le droit aussi de se tromper de son bord.
Ça s'appelle l'autorité. C'est professeur, juge, policier, employeur, parent. Ça s'appelle l'autorité, mais il ne faut jamais oublier une chose. Peut-être que tu étais injustement puni pour une chose que tu n'as pas faite ou que tu as bien faite, mais il y a peut-être le lendemain matin que tu as fait un mauvais coup, tu ne t'es pas fait pogner.
C'est
ça. Quelque part, je pense que le grand monsieur qui dirige l'humanité, là, il a peut-être balancé ça comme il faut.
Ah, peut-être. Les lundis soirs, c'est toujours avec l'ex-ministre de la Justice, le podcast de Marceau Soir. Son nom à lui, c'est Maître Marc Bellemare. Pour le rejoindre, c'est bellemareavocat.ca. Des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, bellemareavocat.ca. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
Comment ça va, David Chabot? Est-ce qu'un jour, on va pouvoir t'appeler Monsieur le ministre Chabot?
Je te dirais que... Quand t'as déjà vu comment la saucisse est faite, t'as moins le goût de la faire sur le barbecue.
Et toi, Jacintel?
Ouais. T'es obligé de t'exprimer sur la saucisse, là.
Mais... la politique, vas-tu t'appeler Madame la ministre un jour?
Fermes-tu la porte pour 2026?
Ah, oh, ben là, vous allez loin, là. C'est le segment, David.
Oh,
ben
là! Oh, ben là! Elle va-tu vraiment se présenter chez Québec solidaire?
Ben, c'est ça, là.
D'après moi, si tu rentres dans leur église, tu brûles.
Mais je pourrais remonter leur parti. Non, mais je pourrais prendre le parti puis le faire virer à droite bien comme il faut.
C'est la mode.
Ça remonterait dans les sondages.
Marceau, le matin. En semaine, 6h. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner vos billets pour aller voir July Talk au Théâtre Capitole le 29 mars prochain.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquettes.
Dites bye-bye tatou avec les Cliniques Viva. Découvrez la meilleure technologie de détatouage au laser. Ultra efficace, fonctionne sur toutes les couleurs d'encre et de peau. Et pour un temps limité, la première séance est sans frais.
Bon, fait que là, je dis la promo Volksfest, c'est ça?
Exactement, tu dis. Le Volksfest est en cours chez Volkswagen. Financez les modèles 2026 à 1,99% et ne faites aucun paiement pendant 90 jours.
Excuse, Pierre-Luc, c'est pédago aujourd'hui.
Okay, mais c'est juste qu'elle articule vraiment bien, là. C'est que moi, la semaine prochaine, j'irai peut-être en voyage. Elle serait-tu disponible pour me remplacer?
Profitez du Volksfest avec des offres de financement à 1,99% jusqu'à 36 mois et faites aucun paiement pendant 90 jours sur les modèles 2026. Faites vite, les offres se terminent le 31 mars. Sur approbation de crédit, détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
Sanivac est maintenant dans ta région, avec le plus grand inventaire de toilettes au Québec. De la petite toilette portative en plastique jusqu'à nos grandes roulottes sanitaires prestigieuses flambant neuves, nous avons ce qu'il te faut. Sanivac t'offre du confort partout, peu importe la météo. Chauffage, air climatisé, les toilettes les plus confortables, là où tu t'y attends le moins. Propre, fiable, livraison en 24 heures et service d'urgence. Que ce soit sur un chantier ou pour un événement, choisis Sanivac. Inventaire, service, qualité.
Chaque fois que je vois mon fils, il me demande ma carte de crédit. Je pense que c'est pour faire mes commissions, mais je suis pas certaine. C'est le seul moment où je peux le voir. Et c'est mon fils. Jamais il me volerait de l'argent. Il en prend juste pour m'aider. Enfin, je crois.
Si vous avez un doute, il y a quelqu'un pour vous écouter. Contactez la ligne Aide Maltraitance Adulte Aîné au 1-888-489-2287. Un message du gouvernement du Québec.
Saviez-vous que Nantes est maintenant accessible par vol direct depuis Québec parmi plus de 35 destinations? Voler de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, c'est simple. Peu de fil, courte marche et aérogare moderne. Visitez décollerdequebec.ca ou parlez-en à votre conseiller en voyage.
Le printemps arrive! C'est le moment parfait pour améliorer votre confort. Jusqu'au 30 avril, obtenez jusqu'à 1 000 $ de rabais à l'achat d'équipements chez Enviro-Confort. Bénéficiez aussi des remises des manufacturiers ainsi que des subventions gouvernementales actuellement disponibles pour un maximum d'économies. Thermopompe, chauffage, climatisation, économisez maintenant et soyez prêts pour l'été. Enviroconfort, le choix des consommateurs numéro 1 en chauffage et climatisation.
Imaginez ne plus acheter de viande pendant 6 mois. C'est possible grâce à Alimentation FC. En mars, chaque commande vous inscrit au tirage de 6 mois de viande gratuite. Vous achetez de la viande de toute façon, aussi bien courir la chance d'en gagner. Commandez dès maintenant. AlimentationFC.com.
La vente étiquette rouge est de retour. Découvrez le Toyota BZ 2026 prêt à prendre la route avec encore plus d'autonomie pour aller toujours plus loin. encore plus de puissance pour une expérience de conduite exaltante. Et un temps de recharge rapide optimisé avec le préconditionnement de la batterie. Comptez sur plus de 25 ans d'expertise avec les véhicules électrifiés. Obtenez jusqu'à 12 000 $ en rabais gouvernementaux et incitatifs clients. Pendant la vente étiquette rouge, visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec pour toutes les conditions.
Tu te lèves toujours brûlé. C'est pas normal. T'as aucune patience, puis ça me stresse de t'entendre arrêter de respirer la nuit. J'aimerais ça que t'aies plus d'énergie. Je veux retrouver mon chum d'avant.
Pour dormir comme avant, visitez la clinique du sommeil, lessard.com.
Lisez les instructions du produit sur l'étiquette.
La perte des cheveux vous gêne-t-elle? Essayez Hair Grow de New Nordic. Des millions de personnes dans le monde font confiance à Hair Grow. Grâce à son complexe breveté de tocotriénol, Hair Grow est cliniquement prouvé pour favoriser la repousse des cheveux et augmenter leur nombre en seulement 4 mois. Ne vous sentez plus gêné par la perte de cheveux et commencez à vous sentir mieux grâce à Hair Grow. Disponible chez Pharmaprix, Jean Coutu ou en ligne sur Amazon.ca et NewNordic.ca.
Un bon repas pour juste $8,99. Ça existe-tu? Chez Tim, oui. Obtenez un wrap délices bien rempli, plus des quartiers de pommes de terre et un Coke pour juste $8,99. Profitez-en, c'est pour un temps limité. Taxes en suite dans les Tim participants au Canada, des conditions s'appliquent.
Moreau PRS poursuit sa croissance. En plus de sa succursale de Québec, une toute nouvelle place d'affaires ouvrira bientôt sur la Rive-Sud. On vous attend au début avril à Lévis. Moreau PRS, 40 ans d'expertise. Et maintenant, encore plus près de vous.
C'est le Salon du vélo de Québec avec un nombre record d'exposants. Voyez les nouveautés en vélo de route, gravel, montagne, électrique. Essayez même votre prochain bijou sur notre piste d'essai intérieur. Voyages, conférences, ateliers mécaniques, compétitions de BMX sur notre pump track, tout y est. Participez au concours officiel Voyage Tradit Tour et courez la chance de gagner 5000 $ en crédit applicable sur un voyage en vélo électrique. Le Salon du vélo du 20 au 22 mars au Centre de foire d'Expo-Cité. Info et billets sur salonduvélo.com.
Faites partie de la famille Kia Beauport. En mars, offrez-vous le Kia Sportage 2026 à partir de 115 $ par semaine en location 60 mois. Passez nous voir à Beauport.
Kia Beauport, une histoire de famille.
Lorrain Frais, des condos locatifs de qualité conçus pour la vraie vie. Peu importe vos besoins, nos 3,5, 4,5 ou 5,5-9 vous offriront la sensation d'être seul au monde et ce, en plein centre-ville de Lévis. Bénéficiez d'un espace lumineux, sécuritaire et tout inclus où l'insonorisation garantira votre tranquillité absolue. Visitez lorrainfrais.com et réservez votre condo locatif pour juillet 2026. Lorrain Frais, un monde à part au cœur de tout.
102, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est... BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Les lundis soirs, c'est avec Maître Marc Bellemare, spécialiste de l'IVAC, de la SAC, de la CNSST. C'est l'ex-ministre de la Justice sous l'ère Charest. Avant la pause, on parlait de hockey, puis quelques articles dans le Journal de Montréal, Journal de Québec en fin de semaine sur des jeunes joueurs de hockey, Maître Bellemare, qui se font approcher alors qu'ils ont 10, 12, 13, 14 ans par des agents de joueurs. On note chez ces jeunes joueurs-là que possiblement que ça va devenir des joyaux du hockey, des joyaux de notre sport national. Et là, il y a des gens qui disent, moralement, ça n'a comme pas de bon sens là, qu'on embarque ces jeunes-là puis qu'on leur mette autant de pression. Problème étant que je regardais les articles qui avaient été faits, Maître Bellemare, puis je me posais la question, il n'y a pas de négatif qui sort de tout ça, si ce n'est que notre malaise à nous en tant qu'adultes de mettre autant de pression sur ces jeunes-là. Mais il n'y a pas de jeunes qui sont sortis en disant « Hey, moi, là, l'agent qui m'a approché quand j'avais 15 ans, il m'a tellement mis de pression sur le dos que là, j'ai écrasé à 30 ans et j'ai fait une dépression. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Les jeunes qui sont des joyaux pour leur sport, qui se font approcher à un jeune âge, un jeune de 4-5 ans qui s'est fait approcher pour le soccer aussi, qui était un artiste du soccer.
Mais ça peut le motiver et ça peut être bon pour lui, en autant que ça ne nuit pas à ses études, en autant qu'il n'y a pas de considération financière là-dedans, puis que le contrôle parental est maintenu. Moi, je suis pour ça. Je suis pour ça qu'on encourage, qu'on incite, puis qu'on développe nos talents, qu'on détecte rapidement des talents importants. À 12 ans, tu as tellement besoin d'être valorisé. L'estime de soi, ce n'est pas nécessairement ta force à 12 ans, là. Mais s'il y a quelqu'un qui t'approche et qui met en évidence tes talents, comme je te dis, en autant que ça ne nuit pas aux autres responsabilités que tu as à 12 ans, à étudier, respecter tes parents, aller à l'école, je ne vois pas le problème. Pourquoi on... Tu sais, la pression, moi, quand j'entends ça, la pression, là, tu sais... C'est un bon stress, là. C'est quoi, là? T'es bon. Si t'as été approché, c'est parce que t'es pas trop poche, là.
Exact.
Quand tu ne portes bien sa bottine, là, t'es pas pire. Alors, tant mieux, on va développer nos talents. Peut-être que si on avait fait ça il y a une trentaine d'années, Yannick, on aurait une couple de Québécois francophones dans l'équipe olympique, contrairement à cette année où il n'y avait personne.
C'est un très bon point, mais c'est à se demander si on se pose ces questions-là ailleurs. Tu sais, au Québec, on a découvert ça, là, qu'il y a des jeunes qui se faisaient approcher à 12 ans parce que les jeunes étaient extrêmement talentueux au hockey, mais en même temps, si ça leur permet d'avoir accès à des cours supplémentaires l'été, avoir accès à des camps d'entraînement gratuits parce que c'est l'agence de joueurs qui paye, why not coconut? Si le jeune est heureux là-dedans, allons-y, ça sera le chemin. Là. Sinon, les autres vont le faire aussi.
Oui, dans n'importe quoi. Je pense que les talents, les bon, il y a des prix pour les performances à l'école, les prix du lieutenant-gouverneur, ces choses-là. Il y a des prix, il y a des valorisations pour l'école. On a développé dans notre système d'éducation sport-études, art-études. Moi, j'ai une fille qui a fait du piano dans l'art-études. J'en ai un autre qui a fait du ballet dans l'art-études. Alors, on essaie de valoriser les talents puis de permettre aux jeunes de continuer de s'affirmer dans son sport favori dans lequel il excelle. Moi, je n'ai rien contre ça. En autant, bien sûr, qu'on respecte les autres fonctions pour pas que le jeune décroche à 12 ans puis qu'il dise « Moi, je m'en vais dans la Ligue nationale. Ciao tout le monde, j'arrête d'aller à l'école. » Bon, c'est pas légal, mais
exact.
Normalement, il n'y a aucun problème. On a peut-être des problèmes avec une forme de... Dès qu'on essaie de valoriser... Là où la meilleure, là, on va dire, ah, c'est élitiste, puis c'est pas correct pour les autres, puis il faut s'occuper surtout des gens qui ont de la misère plutôt que des gens qui ont de la facilité. Ben, je suis pas d'accord avec ça. Occupons-nous des deux. Ceux qui ont de la misère, on va s'en occuper avec des programmes particuliers, mais ceux qui excellent puis qui sont les meilleurs de leur gang, on va les valoriser. Comme on valorise les adultes, hein? Mais à l'âge adulte, si tu es le meilleur de ta gang, tu vas avoir un meilleur revenu, tu vas avoir un meilleur statut social, tu vas avoir une meilleure image. Tu vas avoir une valorisation à toutes sortes de points de vue. Alors, je pense qu'à 12 ans, on est capable... 12 ans, c'est la fréquentation du secondaire, pour la plupart. Donc, normalement, tu as assez de maturité pour comprendre qu'on respecte ton talent et on veut t'encourager à le développer et à continuer dans cette voie-là.
Maître Bellemare, vous m'avez soumis un sujet qu'on peut lire sur Droit Inc. où on met le focus sur une récente décision de la Cour du Québec en matière d'assurance invalidité. Expliquez-nous ça, parce que seul un avocat peut comprendre ça puis nous déterminer tout ce qui est mentionné là-dedans dans cette décision-là.
Oui, c'est un juge qui a blâmé un médecin pour des certificats de complaisance. C'est-à-dire que le médecin avait autorisé une absence, un congé, et le juge a blâmé le médecin en disant qu'il n'y avait pas l'assise qui permettait d'avancer ce rapport médical-là. Puis moi, ça m'a intéressé, cette affaire-là, parce que je travaille beaucoup dans le médical, avec les accidentés de la route, les accidentés du travail, les victimes d'actes criminels, les invalides, ça, c'est mon quotidien. La moitié de mes clients m'appellent docteur, là. Tellement j'ai des gens malades dans mon bureau qui veulent avoir des indemnités, des choses comme ça. Puis souvent, ils ne comprennent pas pourquoi, alors que leur médecin a diagnostiqué une hernie discale, comment ça se fait que la CNESST ne l'accepte pas. Puis là, je leur explique que la médecine, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas parce que le docteur, avec son D en avant de son nom, MD en avant de son nom, a dit que c'était ça, que c'est nécessairement tout le monde qui pense comme lui. Alors, on est porté à penser au Québec parce que mon docteur dit ça, que ça doit marcher comme ça, alors qu'il y a toujours des contrepoids. Hein. Il y a toujours un assureur ou un organisme public ou un employeur qui va remettre en question le rapport médical du médecin. Donc, avant de signer le rapport médical, le médecin doit quand même faire un examen complet pour être en mesure d'asseoir son diagnostic, d'asseoir sa conclusion sur des données précises, minimalement un examen médical. Hein? Je te connais, je signe ça. Il faut que ça soit par des notes cliniques. Et très souvent, dans les dossiers médicaux, on va avoir un rapport médical, mais on va demander les notes cliniques en dessous du rapport médical pour voir quelle a été l'approche du médecin et dans quelle mesure il a véritablement examiné la personne, l'épaule, le dos, le cou, le genou, l'œil, etc., pour voir si vraiment il y avait des justifications pour cesser de travailler.
Maître Bellemare, pour vous rejoindre concernant des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca?
24 heures par jour.
24 heures par jour, 7 jours sur 7, mais vous faites partie
de... Vous pouvez laisser votre message, je vais vous rappeler le lendemain, à première heure.
Vous faites partie de ces générations qui travaillaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Quand vous alliez à l'école dans le temps, vous marchiez 55 km, vos bancs de neige allaient plus haut que les fils électriques. Votre génération est exceptionnelle, Maître Bellemare.
Disons qu'on avait la corde du cœur appropriée. Aujourd'hui, elle est un peu longue, mais dans mon temps, j'avais intérêt à avoir la corde du cœur, comme on dit, comme dirait l'autre, de format standard.
Passez une agréable soirée. On se reparle lundi prochain, tout le monde.
Merci.
Salut, Maître Bellemare. Bye-bye. Bonne semaine.
Marceau, le soir. C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner vos billets pour aller voir July Talk au Théâtre Capitole le 29 mars prochain.
Boulevard 102.1, votre pocheur d'étiquettes.
Attention, Zoom Lunettes, c'est plus de 3000 montures à partir de 20 $, mais aussi de grandes marques. Forfait verre et montures, simple vision 70 $ et progressif 150 $.
Zoom, zoom, lunettes!
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota.